Bonjour et bienvenue à tous. Comme chaque mois, Chant contre Chant, émission préparée par l'association Profil sur l'antenne de Fréquence Protestante, vous propose son regard sur le cinéma. Émission qui sera présentée par moi-même, Jean Lau, et j'aurai à côté de moi Françoise Lau. Bonsoir Françoise.
Bonsoir, bonjour plutôt.
Jean Wilkowski, bonjour Jean.
Bonjour tout le monde.
Et Jacques Champeau, bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors, je voudrais commencer cette émission en rappelant, et en vous la recommandant si vous ne l'avez pas déjà vue, l'exposition passionnante qui se donne à la Cinémathèque depuis octobre et qui dure jusqu'au 29 janvier. Cela s'appelle La Machine Cinéma et c'est en fait toute une rétrospective depuis Méliès de l'évolution technique du cinéma. Et ça traduit admirablement à quel point un art, comme le cinéma, est dépendant des moyens matériels qui l'entourent. Ceci dit, pour revenir à l'émission, de quel film parlerons-nous aujourd'hui ? Les trois dont nous débattrons, nous continuerons de les puiser dans le vivier des films présentés au Festival de Cannes et qui n'ont pas fini d'arriver sur les écrans. Après tout, il faut quand même dire que ce sont en général parmi les meilleurs de la production mondiale et ce serait dommage de les oublier. Nous commençons ainsi ce débat en parlant de Moi, Daniel Black, du Britannique Ken Loach. Nous poursuivrons avec un film coréen, Mademoiselle, réalisé par Park Chan-wook. Et nous terminerons avec un film iranien, Le Client, réalisé par Asghar Farhadi. Commençons donc avec Moi, Daniel Blake, de Ken Loach, Palme d'Or à Cannes en 2016, et mention spéciale du jury œcuménique de ce même festival. Cela, on le sait moins, c'est pourquoi j'y insiste. Alors, je dois dire qu'on avait un petit peu peur de Ken Loach en 2014 quand il nous avait dit « Jimmy's Hall, c'est mon dernier film ». Par chance, je dirais que c'est une blague. Parce que lorsque le monde est de béton et le cinéma privé de cœur comme il sait l'être, heureusement qu'on a Ken Loach. Et merci Ken Loach pour la déchirante humanité de Family Life, The Rolling Stones, de My Name is Joe, mais aussi pour les coups de gueule politiques comme Land and Freedom et The Navigators, sans oublier le sourire de Looking for Eric de la part des anges. Alors, il se passe une chose étrange avec les films de Ken Loach. On se sent regonflé quand on les a vus. Et pourtant, Dieu sait si les situations qu'il décrit sont souvent terribles. Jacques, je ne crois pas que ce soit sur ce point-là que tu vas me contredire à propos de Moi, Daniel Blake.
Ah non, certainement pas. Ce film est un cri de révolte, une dénonciation, un peu comme le célèbre J'accuse de Zola. Le cinéaste engagé, tu l'as rappelé, qui est Ken Loach, repart en guerre contre les dérives libérales de la société britannique et contre des administrations qui, au nom de l'efficacité, maltraitent, voire assassinent, les laissés pour compte de la société. Sa démonstration, elle est implacable, et elle s'appuie sur l'histoire d'un menuisier de 59 ans, Daniel Blake, qui est obligé de s'arrêter de travailler à la suite d'une crise cardiaque. Son médecin, d'un côté, lui interdit de reprendre son travail, mais de l'autre côté, le Job Center, dont il dépend, équivalent du Pôle emploi en Grande-Bretagne, l'oblige à rechercher un emploi sous peine de sanction. Et le pauvre David, qui n'est pas très habile sur un ordinateur, doit remplir des questionnaires interminables sur Internet ou répondre au téléphone à des interrogatoires absurdes menés par des employés de centre d'appel qui semblent fonctionner malheureusement comme des machines. Et quand une employée sociale se montre un peu plus humaine, elle se fait réprimander par sa hiérarchie. Alors devant ce spectacle kafkaïen, on en vient à penser que ces dysfonctionnements ne sont pas seulement le résultat de systèmes mal pensés, c'est sans doute un peu vrai, mais qu'ils ont pour but inavoué de faire des économies en sortant les chômeurs du système. Tout cela pourrait être burlesque, et ça l'est un peu d'ailleurs, si les conséquences sur les individus n'étaient si tragiques.
Alors là, c'est un constat bien sombre, Jacques. Hein. Mais enfin, il n'y a pas que cela dans le film.
Oui, ben heureusement, comme presque toujours chez Ken Loach, il y a aussi une grande fraternité et une grande dignité chez ces pauvres qui se battent pour seulement manger. David rencontre Cathy, une mère célibataire de deux enfants, qui est contrainte d'accepter un logement très loin de chez elle pour ne pas risquer d'être placée en centre d'accueil et ainsi de perdre ses enfants. Il prend courageusement sa défense au Job Center et la raccompagne chez elle, dans un logement délabré qu'on lui a attribué. Et ces deux êtres, vraiment malmenés par la vie, vont se soutenir l'un l'autre. David, s'il ne sait pas se servir d'un ordinateur, comme je le disais, sait par contre tout faire de ses mains. Et c'est merveille de le voir apporter un peu de confort dans ce taudis, mais aussi un peu de joie en fabriquant de ses mains un mobile en bois qui ravit les enfants. Il accompagne aussi Cathy à la banque alimentaire lors d'une scène absolument dramatique où elle s'effondre d'inanition, car elle a donné toute la nourriture qui lui restait à ses enfants. Donc deux personnages très émouvants et qui, on doit le dire, sont très bien joués.
Alors c'est une fraternité enfin, qui s'étend au-delà de ces deux êtres, non ?
Oui, ben là encore, comme souvent chez Ken Loach, il y a beaucoup d'aide. Fraternité, par exemple, de ce jeune voisin Black qui vend des baskets au noir, mais qui aide Daniel à remplir son formulaire sur l'ordinateur et qui l'invite chez lui. Ou de cet employé du Job Center qui résiste à la pression de la productivité à tout prix et cherche à apporter un peu d'humanité dans son travail. Ou encore de la personne de la banque alimentaire qui guide et prend soin de Katie. Donc le système est inhumain, mais il n'a pas tué toute humanité dans les individus.
Alors, la question qui fâche, ce film méritait-il la Palme d'Or à Cannes ?
Ah, c'est une question difficile, car les critères du jury ne sont pas connus, contrairement d'ailleurs à ceux du jury œcuménique. Si le premier critère est l'originalité du film, et ce qu'il apporte de nouveau au cinéma, ce que sont souvent les Palmes d'Or, alors le film ne la méritait certainement pas, car son style n'est pas vraiment différent de celui des films de Ken Loach d'il y a 30 ou 40 ans. Mais si par contre, et c'est sans doute ce que le jury a voulu faire, on veut voir dans le cinéma un moyen puissant pour alerter l'opinion, pour remuer les consciences, et si l'on veut récompenser un film qui porte avec efficacité un sujet brûlant, alors c'est totalement justifié, car ce film est parfaitement maîtrisé, est un vrai coup de poing.
Alors Jean, entre les deux alternatives de conclusion présentées par Jacques, film n'apportant pas grand-chose de nouveau à l'œuvre de Ken Loach, ou film traitant avec efficacité un sujet brûlant, à laquelle as-tu été le plus sensible ?
Ben, écoute, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jacques, en ce sens que c'est un film émouvant, parce qu'on peut pas ne pas être contre ce qu'il raconte. Mais d'un autre côté, comme il l'a dit aussi, c'est un vieux truc. C'est un film qui a été fait par un vieil homme sur de vieilles pratiques et de vieux schémas. C'est un manichéisme primaire et vraiment, il n'y a aucune inventivité sur le plan cinéma. Et oula, c'est vraiment quand même très, très, très dommage.
Oui, oh, je vois que ce film est quand même très mal passé auprès de toi, Françoise. Quel est
Eh bien non, moi je vais parler en faveur du film parce que pour moi, bon, Ken Loach est un grand monsieur, un monsieur de 80 ans, c'est pas seulement un vieil homme. Son film, c'est pas seulement un vieux truc, mais c'est un film qui rend hommage à ce qu'on appelait autrefois, il y a très très longtemps, la classe ouvrière, qui a totalement disparu du vocabulaire d'aujourd'hui. La classe ouvrière n'existe plus. On a des chômeurs, on a des sans-emploi, on a des sans-domicile fixe. Il rend hommage à la classe ouvrière et je reconnais que ça me touche quelque part. J'ai aimé son humanité. Peut-être que le film, en effet, n'est pas de facture moderne, c'est vrai. Ce n'est pas ce qui m'apporte le plus. Moi, j'ai aimé cette idée. Son film a un poids de vérité que j'ai ressenti, qui est sans doute parce qu'il nous montre la vraie pauvreté. Oui. La vraie pauvreté. Moi, oui, j'étais touché. Oui.
Voilà. Moi, enfin, je comprends un petit peu ta réaction. Genre, je la partage un petit peu. Je trouve effectivement que c'est pas un cinéma très moderne. Mais en même temps, Ken Loach, ben, c'est du Ken Loach, quoi. On a du plaisir le retrouver parce que Ken Loach, c'est Ken Loach.
Oui, mais enfin, on l'a vu 36 fois.
Ouais. Oui, mais on a souvent ce débat, en fait. L'art doit-il toujours être original ? Autrement dit, dans un cas comme ça, je trouve que ce cinéma, pour ce qu'il veut faire, est totalement efficace. Il a une force, quand on voit Daniel Blake, par exemple, travailler son bois, etc., on est pris, enfin, il y a une empathie avec ce personnage. Donc c'est vrai que c'est des trucs, enfin, je veux dire, c'est des gros plans, c'est un style qui est très bien mené, enfin, on ne laisse pas souffler. C'est pas nouveau.
Oui, mais regarde,
mais quelle efficacité.
Je trouve quand même que c'est très personnel.
Mais c'est très personnel.
Il suffit qu'on voit une scène de Ken Loach sans savoir que c'est une Ken Loach, et on sait que c'est du Ken Loach.
C'est vrai.
C'est un peu comme Woody Allen.
Oui, mais enfin, par exemple, prends l'informatique. C'est complètement ridicule, cette scène sur l'informatique. Enfin, non, c'est vraiment vouloir faire plaisir à des vieux barbons. C'est stupide, ça rime absolument rien.
Enfin, moi, je trouve qu'elle est parfaitement vraie.
C'est parfaitement vrai. Moi, je trouve que c'est quand même, à mon avis,
c'est non, elle n'est pas vraie.
Elle est pas pour beaucoup de personnes âgées qui vont chercher un emploi. L'Internet, il n'arrive pas.
Mais même pas si
elle est. Il trouve toujours quelqu'un qui l'aide. Donc, ça n'a aucun intérêt.
Actuellement, on entendait dire à la radio que des formulaires sur Internet n'ont pas été remplis par des familles qui demandent des bourses pour leurs enfants parce que ce sont des familles qui ne savent pas manipuler un ordinateur. Autrement dit, moins de demandes de bourses. Pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas manipuler un ordinateur. C'est vrai, ce truc-là.
Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'une bonne partie, par exemple, du travail du Secours catholique ou de gens comme ça, c'est d'aider les gens à remplir des formulaires.
Hein, justement, il y a des gens pour ça.
Ah oui, mais là, ça le montre.
Non, moi, ce qui m'a paru plus discutable dans le film, c'est certaines séquences qui m'ont l'air un petit peu tombées du ciel. Par exemple, la séquence où Blake trouve le petit papier justement tombé à terre, où il apprend que Katie est devenue une escort girl et qu'il va donc aller la chercher pour la sauver. Je trouve que ça, on n'y croit pas vraiment, c'est pas crédible. Pile, il marche et il y a un petit papier par terre et on lui dit quelle est l'adresse. On n'y croit pas, ce truc-là.
Oui, ça, c'est un peu facile.
Il y a également des choses, des faciles. La mort de Daniel Blake dans les lavabos, on l'a déjà vu 15 fois. Cette séquence-là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, mais n'empêche que le film, moi, je le sauve.
Moi aussi, tout à fait.
C'est manichéen.
C'est manichéen.
Un peu trop manichéen, quand même.
Oui, c'est vrai. Le monde de l'administration, c'est tout noir et le peuple, c'est tout blanc.
Bah oui, bon, alors c'est
vrai que ça, c'est, si, mais ça reste extrêmement
touchant.
Sur ce plan-là,
je suis d'accord.
Même.
Oui.
Oui, mais.
C'est quand même très démago.
C'est pas.
Je sais que ce mot allait pas vous plaire.
Non, j'adhère plus du tout.
Je pense que ça dénonce plus le système que les individus. Donc en fait c'est pas si manichéen que ça.
C'est le
système prend les individus quoi. Et sans forcément que les individus qui sont dans le système soient des méchants quoi. Donc moi je trouve que ce film contrairement à Jean est quand même il est très classique sur le plan du cinéma. Mais il est quand même d'un réalisme fantastique.
Sur le même sujet, on avait vu en France la loi du marché,
ou Merci Paco,
qui me semblait quand même plus fort et mieux cinématographiquement que...
Non, mais dans la loi du marché, on ne cherche pas à démontrer le délabrement d'un modèle social. Le délabrement du modèle social anglais, quand même, est effarant.
Oui, mais les deux films sont très comparables.
Les deux sont très comparables, c'est intéressant d'ailleurs.
Par contre, le cinéma est complètement différent. Mais au fond, le cinéma de Brisé, qui prend des... Pendant tout le film, c'est des séquences systématiques. Des plans-séquences systématiques, on peut dire... une fois qu'on a vu le premier, c'est d'une banalité terrible. Je veux dire, il a la force de la nouveauté, parce qu'on ne fait pas film pas toujours comme ça.
Oui.
Mais d'un autre côté, le cinéma de Ken Loach, il a une force extraordinaire.
Peut-être que Brisé, quand il aura 80 ans, il fera
toujours la même chose. Non, je ne suis pas d'accord. Il fera toujours la même chose.
Ben écoutez, on va cesser avec Sophie du Ken Loach. Et je crois qu'on ne peut pas trouver des traditions plus brutales que maintenant de vous parler du film de Mademoiselle du Coréen, Park Chan-wook. Parce que d'un côté, c'est un cinéaste. Ken Loach, c'est réaliste, social, bourré d'humanité. Mademoiselle, c'est théâtral, décalé, sensuel, sinon érotique. Esthétiquement semblable, on peut dire que l'image de Ken Loach est assez pauvre. Bref, tout oppose ces deux films. Et je trouve que c'est assez génial dans le cinéma. On peut juxtaposer deux œuvres que tout sépare et les aimer toutes les deux. Alors, Park Chan-wook, il est connu pour avoir réalisé en 2003 Old Boy, lointainement inspiré du comte de Monte Cristo. Ceci dit, un comte de Monte Cristo, le comte aurait bien du mal à revendiquer l'influence du paisible Abbé Faria. Moins couronné de succès, ses films suivants, Je suis un cyborg et Thirst, Ceci est mon sang, continue des films extrêmes, avec filtre avec certains fantastiques hémoglobinés. Alors, qu'en est-il de ce Mademoiselle? Alors, déjà Jean, ça se passe où?
Alors, Park Chan-wook place son récit dans la Corée de 1930, occupée par les Japonais. Ces derniers souhaitant faire du pays une province japonaise en éradiquant la culture coréenne. Pour moi, Mademoiselle est un film si majestueux, si précis et si beau qu'il en deviendrait presque intimidant. Il y règne en maître l'amour, la trahison, la manipulation, la violence et les déviances. Quatre personnages sont à tour de rôle les acteurs et les victimes de ses passions. En premier, une jeune femme, Sohoke, engagée comme servante auprès du deuxième personnage, une riche jeune fille japonaise, Hideko, que l'on appelle Mademoiselle. Le troisième personnage est un escroc, le comte, qui veut s'emparer de la fortune de Mademoiselle en l'épousant, puis en la faisant passer pour folle. Enfin, l'oncle d'Hideko. Le quatrième personnage est un homme riche, sévère et lettré, épris des œuvres du marquis de Sade, dont il contraint sa nièce à lire les œuvres devant ses amis. L'essentiel de l'intrigue se passe dans une grande demeure bourgeoise, isolée de tout, qui marie les styles anglais, japonais et coréen. Ce grand bâtiment, aux très nombreuses pièces, aux couloirs interminables, à la bibliothèque hors normes et aux pièces secrètes, crée une atmosphère étouffante.
Bon, là tu as tracé le décor, hein, mais il faut quand même un peu près de l'action.
Oui, l'action, venons-en au fait. Le scénario est à tiroir et à révélation, et il demande beaucoup d'attention. D'autant plus qu'il se nourrit de nombreux flashbacks sur la jeunesse d'Hideko, victime des maltraitances de son oncle. Le film est découpé en trois parties explicitement marquées. D'abord, c'est un récit du point de vue de Sooke, la servante, alliée au comte contre Mademoiselle. Puis on assiste à une alliance de Mademoiselle et du comte contre Sooke. Et enfin, dans la dernière partie, l'apothéose, il y a l'alliance des deux femmes contre l'homme. Le film devient alors quasiment féministe. Cette complexité du scénario fait que l'on voit plusieurs fois la même scène vécue par les différents protagonistes. C'est un jeu de mensonges, de manipulation et de perversité qui est mis en scène avec une précision presque pathologique. Mais Mademoiselle est avant tout un film d'amour brutal, viscéral.
Viscéral, enfin, d'un érotisme très cru, non ?
Oui, c'est vrai, mais enfin, si on regarde sur la longueur du film, seules deux scènes sont concernées. Et je trouve qu'elles sont bien moins explicites que dans La vie d'Adèle, par exemple, de Kichiche, qui est la Palme d'Or, à Cannes l'an dernier. Ici, l'érotisme est filmé avec une délicatesse particulière, caractéristique de la manière des estampes japonaises et très éloignée de notre culture occidentale. De l'amour vrai et total que les deux femmes ressentent l'une pour l'autre dans cette société de l'entre-deux-guerres encore très phallocratique, se dégage une tendresse pour les femmes et une charge contre la pornographie. Cela est aussi mis en valeur par le fait qu'au même moment où les deux femmes sont ensemble, les deux hommes, le comte et l'oncle, s'entre-déchirent violemment. On retrouve, comme dans d'autres films du réalisateur, le thème de l'enfermement, accompagné de tortures morales ou physiques, mais non sans un certain humour noir. C'est un monde étrange et fascinant, restitué par un conteur hors pair.
Jacques, j'ai pas l'impression à te voir que tu dirais que ce film se déroule dans un monde étrange et fascinant, restitué par un conteur hors pair.
Non, je dois dire que c'est assez rare, mais ce film m'a vraiment énervé. Pour moi, alors en plus, j'adore Park Chan-wook et je considère que Old Boy, même si c'est un film très dur, est peut-être un des très grands films des 10 dernières années. Mais alors là, c'est une débauche de belles images, totalement, enfin, pour le plaisir d'en faire de belles images, qui m'ont laissé totalement froid, m'ont mortellement ennuyé. J'ai pas pu m'intéresser une seconde au personnage. Et à ce scénario aussi tortueux et raffiné que les images, enfin, pour moi, ça ne produit aucune émotion. Le positif mettait en sous-titre pour sa critique « Tout n'est que mise en scène ». Eh bien, ici, oui, tout n'est que mise en scène. Il n'y a rien derrière. C'est du roman photo sur papier glacé avec la petite pointe d'érotisme qu'il faut pour aller chez le client. Donc, vraiment, pour moi, on peut très vite oublier ce film qui ne vaut pas. À mon sens, vraiment pas la peine qu'on lui consacre 2h30, parce qu'il est horriblement long.
Non. On va laisser passer le deuxième procureur, parce que je crois, François, que toi non plus, tu n'as pas l'accusation sur ce film.
Oh là là, pour moi, ça a été davantage une épreuve qu'un plaisir. Je me suis mortellement ennuyée. J'ai très mal compris le scénario, parce qu'il est très confus, tout simplement. C'est pas parce que je n'y comprends rien. Il repose en grande partie, en effet, sur l'antagonisme de la Corée et du Japon. Et on nous dit, dès le début du film, on dit attention, alors ils vont parler des langues, le coréen et le japonais. Alors, quand on parle japonais, c'est sous-titré en jaune. Quand on parle coréen, sous-titré en vert. C'est peut-être l'inverse, mais j'en ai rien à faire. Et comme je connais ni l'une ni l'autre des deux langues, j'ai tout mélangé. Je ne savais plus qui était coréen, qui était japonais. Ce qu'il disait ne m'intéressait pas. Donc, j'étais très vite perdue dans ce jeu d'arnaqueur, arnaqué, dont j'avais rien à faire. Par contre, j'ai été très, mise très mal à l'aise par le côté pervers, cruel et sadomasochiste du film. Moi, j'ai pas du tout vu un film érotique, un grand film d'amour. L'érotisme, c'est un jeu amoureux entre deux personnes. J'ai vu beaucoup de perversité. C'est en effet un détournement, je trouve, de l'érotisme. C'est l'emprise de l'un sur l'autre, c'est l'asservissement, l'humiliation. La séance des doigts coupés, des phalanges coupées, et bientôt du sexe. Il a échappé, il a quand même gardé son sexe. J'y vois une perversité, une cruauté qui ne m'a absolument pas divertie.
Écoutez, enfin, Jacques et François, je ne suis pas sûr qu'on ait vu le même film.
Ben, c'est ça qui est étonnant.
Vous avez envie d'aller voir Mademoiselle et Park Chan-wook ?
Non, mais si, je pense qu'on a vu le même film. Parce que c'est vrai que si on s'intéresse purement à l'esthétisme du film et au raffinement de la mise en scène, des gens il y a des scènes, par exemple, quand l'héroïne lit le livre devant des vieux barbons là, qui se trémoussent, c'est somptueux, mais... Autrement dit, moi, si j'en voyais 5 minutes comme ça, je dirais, ah, Voilà un gars qui s'est filmé. Mais tout ça pour une histoire qui n'a aucun intérêt et qui l'a rendu, qu'il a voulu rendre intéressante par une complication du scénario.
Je suis d'accord. Effectivement, l'esthétique, c'est un film esthétique magnifique.
C'est de l'esthétisme.
Ceci, je trouve que c'est un film assez remarquable. La seule limite que je mettrais est un peu long. Encore que l'on peut se dire qu'il y a quand même trois films en un, mais, et que donc ça passe.
Heureusement qu'il y en a que trois.
Il y a trois films, trois versions différentes de la même histoire, et je trouve que ça, c'est un des parties originales du film. Et ce que j'ai énormément aussi, pour moi, c'est un film sur la manipulation.
Ce qui vous a manqué, c'est de vous laisser emporter par ce film. Il faut vraiment se laisser comme glisser dans le courant.
Si tu n'es pas emporté, tu ne peux pas reprocher de ne pas être emporté. Non. C'est que quelque chose n'a pas marché.
Et vous avez raté quelque chose.
Oui. Non, je ne pense pas. Moi, j'ai parfaitement apprécié, je pense, ce qui est appréciable dans ce film. Il reste que pour moi, c'est un film qui n'a pas d'intérêt. Je veux dire qu'il y a autant d'intérêt que des clips publicitaires. C'est parfaitement fait esthétiquement.
Moi, je
trouve que ce film sur la manipulation qui manipule le spectateur, c'est quand même extraordinaire. Dans le premier film, il y a un conte qui manipule Hideko avec Sohoke. Dans le deuxième film, il est montré comme il est manipulé, il manipule Sohoke, Hideko, et en fait, le conte lui-même, il est manipulé, et les spectateurs manipulent en permanence.
Oui, mais...
Donc, je trouve qu'il y a, qu'il y a une virtuosité à la manipulation que je trouve assez extraordinaire.
C'est de la virtuosité, mais moi, je préfère la simplicité de Ken Loach, oui, parce que ça, c'est de la virtuosité pour la virtuosité.
Oh, mais c'est du simplisme,
c'est pas le même cinéma.
C'est pas le même cinéma, mais... Enfin, vous vous souvenez sans doute d'Oldboy. C'était un film qui était extraordinaire aussi sur le plan de la mise en scène, mais qui avait une force. Enfin, je veux dire, on ne quittait pas, on ne s'ennuyait pas une seconde, on était scotché. Là, on regarde ça avec beaucoup de distance.
Moi, j'ai eu la même chose, j'ai eu le même plaisir qu'avec Oldboy.
Ah, il va pas mal.
Oui, moi aussi. Enfin, j'étais très séduit vraiment par cette construction, qui d'ailleurs, c'est curieux. Enfin, je ne sais pas si c'est dû au cinéma coréen, mais ça m'a beaucoup rappelé finalement les films de Hong Sang-soo. Il y a deux constructions en miroir et une troisième partie qui rassemble ces deux constructions en miroir.
Hong Sang-soo ne se complète pas dans les mêmes eaux que...
J'aime mieux le bavardage de Hong Sang-soo, même si je reconnais que c'est du cinéma beaucoup plus flamboyant.
Non, mais quand même, moi, je trouve un truc très positif dans notre discussion, c'est qu'on voit deux films complètement différents et on peut les aimer tous les deux parce qu'on est des cinéphiles, heureusement.
Ben, je crois... On va continuer entre nous pour l'instant, on va faire une petite pause musicale et on va reprendre ensuite. On a donc passé par la Grande-Bretagne, puis par la Corée du Sud, et maintenant on va passer à l'Iran, avec Le Client de Asghar Farhadi, cinéaste entré dans la cour des grands en 2011 avec La Séparation, qui a été couronnée, je le rappelle, de l'Ours d'Or au Festival de Berlin. Avant La Séparation, il y avait eu La Fête du Feu, et à propos d'Elie. Après La Séparation, il y a eu une courte parenthèse française, pour moi pas forcément convaincante, avec Le Passé. Et maintenant, retour à l'Iran avec Le Client. Alors, pour moi, ce qui frappe chez Asghar Farhadi, c'est la constance de sa boussole. Il avance toujours dans la même direction. Son domaine, c'est l'observation du couple d'Iraniens moyens et la radiographie minutieuse de ses crises. Avec une grande importance donnée au dialogue et avec des histoires extrêmement bien ficelées et reconnues comme telles, puisque Le Client a obtenu le prix du scénario au Festival de Cannes 2016. Bon, on ne prête qu'au riche. François, est-ce que tu es d'accord avec l'attribution de ce prix ?
Bon, on a en effet un scénario très élaboré, comme sait le faire Asghar Farhadi. Tout le monde connaît son talent de conteur extraordinaire. Là, on a affaire à une sorte de thriller, avec une chasse à l'homme, tension extrême, fin poignante. Farhadi nous raconte l'histoire d'Emad et de Rahana. C'est un jeune couple de la classe moyenne vivant à Téhéran. Dès le début du film, on les voit obligés de quitter leur appartement dans l'urgence, parce que l'immeuble menace de s'écrouler sur leur tête. Alors, ils emménagent dans un nouvel appartement, un nouveau logement, mais sans savoir que la locataire qui les précédait était une prostituée. Et alors un soir, l'un des anciens clients de la prostituée fait irruption dans l'appartement, tandis que Rana, toute seule, y prend une douche. Elle est violemment agressée, mais elle refuse de porter plainte pour ne pas avoir à raconter tout ça aux policiers. Alors Emad, le mari, qui voit l'honneur de sa femme et également le sien gravement bafoué, se lance dans une chasse à l'homme qui va mal tourner. Ceci dit, c'est un scénario avec des trous, c'est un scénario avec des blancs. Bien sûr, c'est voulu par Faradi, qui a choisi d'en dire le moins possible sur l'agression dont Rahana a été victime. On comprend bien sûr que Faradi se devait de passer à travers les mailles serrées du fameux ministère de la Culture et de l'Orientation islamique. Donc c'est au spectateur d'imaginer ce qui a bien pu se passer derrière la porte de la salle de bain.
Et que penses-tu du second prix reçu par ce film, hein? Le prix d'interprétation masculine donné à Sahab Hosseini, qui joue le personnage du mari.
Et là, bravo. Bravo, Emad, le mari bafoué, est un personnage complexe, inattendu et magnifiquement joué par Sahab Hosseini. Dans la première partie du film, Emad est un type bien. C'est un homme calme, équilibré, et chacun comprend tout à fait la colère qui l'envahit quand il apprend le drame que sa femme vient de vivre, sa femme agressée par un inconnu. Alors Emad commence par chercher une solution civilisée, à savoir porter plainte à la police, sauf que sa femme s'y refuse absolument. Alors bien entendu, dans son entourage, on lui dit qu'il doit retrouver l'agresseur, qu'il doit venger l'outrage, venger son honneur bafoué, que c'est ainsi que ça ne se discute pas. Et voilà que Emad bascule sous nos yeux. Sa colère légitime se transforme en soif de vengeance, et ce n'est plus tellement sa femme qui compte pour lui à ce moment-là, c'est lui. Le sentiment exacerbé de son honneur, qui lui enlève toute humanité, il n'entend plus rien. Il est convaincu du bien fondé de sa fureur qui va le conduire à porter un coup fatal, mais hélas, fatal aussi pour son couple.
Enfin, on observe également un revirement comparable chez Rana. Est-ce qu'il est crédible?
En tout cas, on ne s'y attend pas vraiment. Mais ceci dit, Rana nous apparaît tout de suite comme une femme intelligente. Donc, tout à fait capable de remettre en cause ses réactions quand elle est confrontée à une situation qu'elle n'avait pas imaginée. À savoir quand elle rencontre ce mystérieux client. Et là, Rahana parvient à dépasser la blessure qui lui a été infligée et à véritablement écouter l'autre. À l'inverse d'Emad, et pourtant c'est bien elle la victime, somme toute, à l'inverse d'Emad, elle s'avère prête à mettre fin au conflit. Et moi, j'ai trouvé que c'était elle le beau personnage du film. Je me suis dit aussi que peut-être Faradi confie aux femmes de son pays l'intelligence et la force de remettre en cause tout ce fameux code de l'honneur, ce tragique code de l'honneur qui ne cesse de faire des ravages. Moi, je dirais, pour conclure, que le thème de la vengeance et du pardon est universel. Mais que le film de Faradi est incontestablement un film iranien, et ceci dès l'ouverture. En effet, cette histoire de toit qui s'effondre sur la tête des habitants, cette scène de théâtre vide, plongée dans le noir, où on fait cependant quelques essais de lumière ici et là, et puis tous ces échafaudages qui sont en fait promesses d'une construction à venir, comment ne pas y voir aussi une métaphore de l'écran de l'Iran d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui m'est apparu.
Oui, je retiens dans ton je viens de dire que le scénario souffre certainement manque de clarté, c'est un trou. Jean, est-ce que tu partages ce sentiment?
Oui, je partage tout à fait ce sentiment et j'ai beaucoup aimé ce film. Surtout que j'avais, comme tu l'avais dit d'ailleurs au début, moins aimé le passé qui se passait en France. Et là, il retourne chez lui et manifestement il est à l'aise en Iran et il analyse ce qui arrive au couple comme ce qui se passe dans la ville avec cette ville qui est en mouvement, qui se casse, qui se reconstruit et c'est ça, je trouve que c'est extrêmement bien fait.
Et toi Jacques?
Ah oui, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, plus d'ailleurs effectivement que le passé. Je ne suis pas complètement d'accord avec Françoise sur le fait que c'est un film très iranien. En fait, non, il est vraiment très universel pour moi. C'est vrai que la métaphore des immeubles qui s'écroulent, etc., montre bien une société en crise, une ville qui bouge trop vite. Mais cette histoire de couple, à mon avis, elle pourrait se passer n'importe où. Et d'ailleurs, le théâtre, le rapport avec le théâtre qui est dedans, et cette pièce de la mort d'un commis voyageur, semble aussi montrer que l'idée est plus large qu'effectivement la société, iranienne.
C'est pas ce que j'ai préféré, cette histoire de théâtre. Je sais pas,
ça
m'a embêté, cette histoire de théâtre.
Cette première partie, je trouvais que c'était ça allait pas tellement dans le film, quoi. J'ai l'impression que c'était par accord. Entre le début et la seconde partie. Et puis, le symbole des murs fissurés, etc., je vois que ça s'est un peu rebattu.
Oui, ça s'est un peu rebattu. Le théâtre, c'est vrai qu'au début, ça fait un peu accessoire, je suis assez d'accord. Et puis après, je trouve que ça va beaucoup plus parce que le drame qu'ils vivent se retrouve
au théâtre.
Au théâtre. Aussi bien dans ce qu'ils jouent que dans la façon dont ils le jouent ou dans les crises annexes. Donc ça c'est pas mal, c'est assez intéressant.
Non, c'est assez bien foutu, ça. Et puis pour revenir aussi, il faut dire que quand il a reçu son prix, il a dédié son prix au peuple iranien.
Ah oui, je savais pas ça. Mais moi j'ai vu vraiment quelque chose.
Donc ça prouve bien qu'il est très iranien.
Oui. Moi, pour reprendre un peu ce que tu disais, François, tout à l'heure, je suis pas très d'accord avec l'idée qu'il y a des trous dans le scénario.
Il y en a,
mais pour moi, c'est une force du film.
Ah oui.
C'est une force, parce que pour moi, ce qui est important, c'est que finalement, ce qui guide les gens, qui fait agir les gens, c'est du fantasme. C'est du pur fantasme. Rien n'est jamais prouvé. Oui. Et les gens agissent simplement à partir de leur imaginaire.
Oui.
Et c'est ça la force du film, pour moi. Une des forces du film.
Ah oui, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense même que... Enfin, je ne sais pas si c'est la censure qui l'obligeait à ne pas faire la scène de l'agression. Mais pour moi, il ne fallait pas la faire.
Bien sûr.
Que sinon, je dirais, le spectateur aurait tout su. Et il n'y avait plus de... Alors que là, il reste finalement un grand mystère sur ce qu'est le niveau de cette agression. Parce que quand on voit le pauvre bougre après, on se dit qu'il n'a pas pu faire grand-chose comme agression. Et c'est sans doute pour ça qu'elle lui pardonne aussi, d'une certaine manière. Donc, là, pour le coup, c'est une scène qu'il ne fallait pas montrer sans
suivre. Je ne dis pas qu'il fallait montrer la scène. Bien sûr que non. Ce serait du voyeurisme. Non, mais qu'on en sache un peu plus sur ce qui s'était passé. Mais vous avez raison, peut-être que ce n'est pas la peine. Ensuite, quand on découvre le fameux client, voilà, on se fait sa propre idée.
On a l'impression que tout était plié avant l'acte, finalement. Et que c'est un peu la femme de La Fontaine, c'est le loup qui accuse l'agneau de choses impossibles. On a l'impression que finalement, peut-être, cette fissure annonce ce qui va se passer. C'est-à-dire que ce couple cherche la première occasion possible pour se briser.
Ah, je ne suis pas sûr de ça, moi.
J'ai
l'impression que c'est un couple qui fonctionnait bien et qui fonctionnera
qui
peut-être
fonctionnera
bien après, d'ailleurs, on
ne
sait pas. Mais alors là, je rejoins complètement Françoise. Là, la façon dont, sur le plan psychologique, on montre l'évolution du mari et de la femme, parce qu'en fait, il est montré quand même comme quelqu'un de très ouvert.
Et
après, il réagit dans la vengeance.
C'est l'acharnement.
Et c'est de l'acharnement. Et en plus, il a des réactions. À la fin, finalement, son seul argument, c'est « mais qu'en diront les voisins ?»
Oui.
À la limite, il va presque tuer ce bougre simplement
à cause
des voisins.
Mais c'est ça, ce foutu code de l'honneur. Code de l'honneur.
Alors qu'il est moderne au départ, il retourne dans l'obscurantisme à la fin.
C'est ça
qui est intéressant quand même.
C'est superbement vrai. Voilà. Donc vraiment, c'est un film qu'on peut demander à tout le monde d'aller voir. Bon, on va passer maintenant au coup de cœur. Jacques, tu voulais parler de La mort de Louis XIV, qui est effectivement un très très beau film.
Ah, c'est un film évidemment très différent de ce dont on vient de parler. Donc c'est un film d'Albert Serra, La mort de Louis XIV, très original. Pour ceux qui ne connaissent pas ce réalisateur catalan, il s'est fait une spécialité de revisiter des récits héroïques, historiques ou mythiques, comme Don Quichotte avec Honor de Cavaliera, ou les Rois Mages avec Le Chant des Oiseaux. Et il s'attaque donc cette fois-ci à la mort de Louis XIV, en partant du récit historique qu'en fait le duc de Saint-Simon dans ses mémoires. Et il choisit pour jouer le rôle du roi Jean-Pierre Léaud, donc l'acteur mythique de François Truffaut et de La Nouvelle Vague, et qui se trouve à peu près avoir le même âge que le roi Soleil à sa mort. Alors le film est un extraordinaire huis clos dans la chambre du roi, faiblement éclairé aux bougies. Les décors et les costumes magnifiés par un éclairage qui isole les visages reconstituent les tableaux de l'époque. Alors, il ne se passe presque rien. Les médecins discutent entre eux, s'inquiètent, on essaie de faire manger et boire le roi, on applaudit lorsqu'il arrive à avaler une bouchée de biscuit, on en arrive même à essayer l'élixir d'un charlatan. On assiste à la lente agonie d'un monarque encore dans sa pompe, mais aussi d'un homme qui peu à peu abandonne sa grandeur. Et alors, curieusement, on ne s'ennuie pas un instant dans ce film qui dure quand même près de 2 heures, qui est très statique, donc on pourrait penser que c'est très barbant. Eh bien, pas du tout. Et sans doute grâce à l'atmosphère créée par Serra, mais aussi au jeu d'une extraordinaire sobriété de Jean-Pierre Léo, qui vraiment nous émeut par un regard ou un simple mouvement des joues ou de la bouche. Moi, je retrouve que c'est du grand art que cette mort de Louis XIV.
Oui, tout à fait. Moi aussi, enfin, j'ai énormément aimé ce film. Bon, je crois un film tout à fait différent. C'est Le mystère de Jérôme Bosch dont Françoise veut nous parler.
Oui, c'est un documentaire espagnol de López Linares. Et celui-ci s'interroge sur l'étrangeté du célèbre triptyque Le Jardin des Délices, peint au début du XVIe siècle par un certain Hieronymus Bosch, un peintre flamand dont on ne sait pas grand-chose. Sinon qu'il est né vers 1450 à Hertogenbosch, où il a vécu jusqu'à sa mort en 1516, il y a donc exactement 500 ans. On sait qu'il était le peintre attitré de la très célèbre confrérie Notre-Dame. Le triptyque se trouve au musée du Prado depuis 1939, alors le réalisateur a planté sa caméra en face de cette œuvre, au titre trompeur pour qui pense naïvement y retrouver le jardin d'Éden. De la Genèse, le triptyque est filmé d'abord fermé, comme il l'était habituellement à l'époque, on ne l'ouvrait que pour les fêtes religieuses, puis il est ouvert solennellement sous nos yeux. Mais également devant les visiteurs du musée qui sont filmés eux aussi médusés, comme nous, devant cette représentation fantastique de l'ici-bas et de l'au-delà à mi-chemin entre le profane et le sacré, entre réalisme, poésie, rêve et cauchemar. Le réalisateur a invité des historiens de l'art, des écrivains, philosophes, psychanalystes, voire même musiciens, tous priés de nous dire leurs sentiments face à ce jardin. Parmi eux, Salman Rushdie, Pamuk, Michel Onfray, William Christie et René Fleming, car on découvre sur ce tableau nombre d'instruments de musique. La plupart sont empruntés à la réalité, mais parfois ils ont été détournés de leur usage commun et convertis en instruments de torture épouvantables. Ça, c'est le panneau de droite, c'est l'enfer, le chaos, la souffrance, l'effroi. Le panneau de gauche représente le jardin verdoyant où Dieu présente la jeune Ève à Adam, assis dans l'herbe, abasourdi. Mais nous dit-on, ce Dieu, qui porte de beaux cheveux blonds et une longue tunique rose pâle, est tout à fait conforme à l'image de Jésus dans la peinture médiévale. Quant au grand panneau central, il dépeint le fameux jardin pas si délicieux que ça, fourmillant, foisonnant, habité de créatures mi-réelles, mi-oniriques, issues tout droit des profondeurs d'un inconscient millénaire, eh bien je vous le dis, ça vaut le déplacement.
Merci pour ce commentaire sur le dernier mystère Jérôme Bosch. On va passer à un film tout à fait différent. Là, on va passer carrément en Russie avec Jean Wilkowski qui va nous parler du Disciple.
Oui, on continue notre tour du monde par un film russe, Le Disciple de Kirill Serebrennikov, qui a été présenté à Cannes dans la section Un certain regard et qui sort demain sur nos écrans. C'est un film sur la radicalisation d'un jeune dans un lycée de la province russe. La grande originalité de ce film est que le lycéen est orthodoxe et non musulman, ce qui montre bien, hélas, que cette plaie, qu'elle soit nazie, stalinienne ou religieuse, est universelle. Nous avons affaire à un adolescent, a priori sympathique, beau parleur, qui attire ses condisciples. Il va utiliser tous les poncifs de la radicalisation. Déviation des textes sacrés dans le sens qui l'arrange, mauvaise foi, mensonge, calomnie, antisémitisme et surtout la haine des films et des homosexuels. Il va même jusqu'au sabotage et à l'assassinat pour la plus grande gloire de son Dieu. Il va réussir à transformer son lycée en obtenant que les filles aillent à la piscine en maillot une pièce et non en bikini, ou encore en sabotant le cours sur Darwin en se déguisant en gorille. Mais le plus désolant de tout est l'attitude des adultes. Ceux-ci sont, au mieux, veulent, comme le directeur du lycée, au pire, enthousiastes, comme le pop. Presque tous, finalement, sont plus ou moins satisfaits de l'ordre et de la discipline qui résultent de ces nouveaux diktats qu'ils acceptent pour avoir la paix. Tout cela fait froid dans le dos et donne une piètre image de notre société, qu'elle soit russe ou française. Heureusement, la professeure de biologie résiste, malgré la tentative d'assassinat dont elle est l'objet. Mais sera-t-elle entendue ? Rien n'est moins sûr, hélas.
Oui, enfin, je n'ai pas vu ce film, mais tu m'as très donné envie d'aller le voir. Il a l'air tout à fait, effectivement, dans le contexte actuel, particulièrement intéressant. Mais moi, je voulais parler d'un documentaire. Je vais revenir un peu au documentaire avec « Dernière nouvelle du cosmos » de Julie Bertuccelli. Alors, j'aime bien ce titre, hein, parce que le sujet du film, en fait, c'est une femme qui a l'air venue d'ailleurs, tellement sa personnalité, tout en étant complexe et complète, est totalement autre. Elle a 30 ans, elle s'appelle Hélène Nicolas dans le civil, mais son nom de plume en tant qu'écrivain est Babouyik SP, SP pour sans parole. Elle est autiste, très déficitaire, elle a tous les signes apparemment de sa maladie, elle ne parle pas mais elle écrit. Non pas comme tout le monde, avec un stylo ou un clavier, car son habileté motrice est insuffisante, mais avec des lettres cartonnées, plastifiées, qu'elle saisit dans une boîte devant elle et qu'elle pose les unes à côté des autres pour former des mots, dont l'assemblage constitue des phrases, des aphorismes, des poèmes. Alors, comment sait-elle lire et écrire ? Elle qui n'a jamais appris à le faire, et dont les étonnantes facultés ont été découvertes par sa mère et un peu par hasard au cours d'un long programme de stimulation sensorielle, elle donne la réponse avec ses propres lettres en carton, en jouant avec les espaces secrets de mon cornichon de cerveau. Depuis qu'elle écrit, elle nous ouvre son univers. Ses textes ont été assemblés en recueil, algorithme éponyme et raison et acte de la douleur du silence. Ce dernier a même été mis en scène et créé par Arnaud Stéphan au festival Mettre en scène. Une énigme vivante, donc, cette Hélène, alias Baoulia Caspé, que Julie Bertuccelli suit enveloppe dans sa caméra pendant 1h25, aussi bien dans sa vie quotidienne, lourdement pénalisée par son mal, que dans ses extraordinaires moments d'écriture, ou pendant ses étonnantes rencontres avec des linguistes et des mathématiciens fascinés par son intelligence. Mais si près que s'approche la caméra, le mystère reste entier, et grandit même de sa tentative d'approche. Nous restons toujours au seuil de cette altérité impressionnante. Voilà, je crois qu'est venu le temps de nous quitter. Merci à Françoise, à Jacques et à Jean qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui l'ont écouté et que nous invitons à nous rejoindre dans notre prochaine émission Chant contre Chant qui aura lieu le mardi 27 décembre de 13h15 à 14h. À bientôt.